France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mazette, quelle musique! Voici notre première émission et comme pour toute bonne chose, il faut commencer par le début.
Thank you.
Pour commencer donc, un chef-d'œuvre de Johann Sebastian Bach, comme disait Jacques Merlet, Jean-Sébastien Bach, comme dit maintenant Corinne Schneider, résonner timbales, sonner trompettes, flûtes, hautbois, violons, fanfares jubilatoires, très virtuoses, triple croche descendante. On est saisi immédiatement par cette grande allégresse, on est transporté par ce début. Vous avez peut-être reconnu le célèbre début de l'Oratorio de Noël. Eh bien non, il s'agit du début de la cantate 214, cantate pour l'anniversaire de Maria Josefa, épouse du prince électeur de Saxe, fraîchement élu roi de Pologne. Elle a été créée le 8 décembre 1733, jour anniversaire de la reine. Selon certaines sources douteuses, Maria Josefa se serait écriée « Mazette, quelle musique !» Pas tout à fait sûr tout de même. Mais surtout, ce 8 décembre 1733, Bach constate l'effet saisissant que ce chœur a sur les auditeurs. Et ainsi, un an après, fin 1734, il décide de recycler ce chœur à la première page de l'Oratorio de Noël. Seul le texte a changé, la musique est la même. 1734, c'est le début d'une période un peu mystérieuse. Bach semble traverser un désert autour de ses 50 ans. Il compose peu, très peu, il reprend surtout des œuvres existantes. Ainsi, l'Oratorio de Noël est un génial patchwork qui réutilise des œuvres antérieures. Ce n'est pas un cas rare, en particulier chez Bach, et on comprend bien pourquoi. Réemployer des œuvres dont le succès a été déjà éprouvé, c'est être sûr que cela va marcher. Autre exemple de ce recyclage, le début de la cantate 29. C'est une cantate qui est écrite pour les municipales de 1731 à Leipzig. Le renouvellement du conseil municipal avait lieu par tiers chaque année, le lundi après la Saint-Barthélemy, le 24 août. Pourquoi la Saint-Barthélemy? Pas à cause du massacre, évidemment. Mais selon les experts, Saint-Barthélemy avait subi le martyre en étant dépecé vivant. La Saint-Barthélemy, c'est donc la bonne période pour que le conseil municipal fasse peau neuve. Aucune allusion à l'actualité française, bien sûr. Cette ouverture de la cantate 29, c'est donc le recyclage d'une sinfonia tirée d'une cantate nuptiale écrite 3 ans avant. Avec trompettes et timbales, voilà un début de nature à impressionner le corps électoral avant de passer au vote.
Thank you.
magnifique. Mais malgré toute cette emphase joyeuse, malgré les couleurs de l'orgue, la rutilance des trompettes, les timbales, nous n'allons pas résister à l'envie d'écouter l'original. Parce que l'original, vous l'avez bien sûr reconnu, ce n'est pas cette cantate nuptiale, c'est le célèbre prélude de la troisième partita pour violon seul de Bach. Avec ce seul violon, simplement quatre cordes et un archet, certes l'archet génial d'Isabelle Faust, ce prélude, ce début n'est pas moins spectaculaire, pas moins grandiose, radieux, en un mot pas moins solaire que tous ces avatars avec orchestre. Nous avons tous en tête de nombreux exemples d'œuvres musicales dont la fin nous a transportés. La fin d'une œuvre, c'est le moment où le compositeur et ses interprètes, surtout lorsqu'ils ont du génie, nous laissent pantois, surexcités. Ce sont ces fins de concert ou d'opéra où le public ne peut se retenir et applaudit avant même que la musique soit terminée. Ou au contraire, ces moments rares et inoubliables où le public, pour ainsi dire stupéfait, bouleversé, retarde de quelques instants de silence poignant l'ovation bruyante qu'il va porter au chef d'orchestre ou à la soprano qui vient de longuement agonir sur scène. Ça, c'est la fin d'une œuvre. Le début d'une œuvre, c'est évidemment très différent. Même si nous sommes saisis, bouleversés, pris d'une envie irrépressible de réécouter le début, de s'y replonger, c'est souvent moins simple. La musique, le concert, la représentation, l'émission de radio continue. Fort heureusement, il y a ces grandes œuvres, où il nous est donné, à la fin, de retrouver, de revivre ce qui nous a saisi, bouleversé au début. Un exemple très marquant, Elektra de Richard Strauss. La fin d'Elektra de Richard Strauss, c'est aussi et d'abord son début, un début vraiment stupéfiant. Pas d'ouverture ni de prélude, 5 mesures à peine, terriblement efficaces. 3 notes, ré, la, fa, un accord parfait, cuivre, bois, cordes, fortissimo, comme un coup de poing, comme un spasme qui s'évanouit très vite, puis un trémolo de grosse caisse qui disparaît, et enfin une rumination, une espèce de gargouillis profond de la clarinette basse. Wo bleibt Elektra, ou se taire Elektra, tout ça en moins de 15 secondes. Après ces 15 secondes, nous ne sommes plus là où nous étions avant. Un monde abyssal, tragique, nous est asséné. Nous sommes plongés immédiatement dans quelque chose de tellurique, de barbare, de menaçant. On réécoute ce début. On est donc saisi à l'instant même du lever de rideau. On reste pris et tenu jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, l'opéra, d'un seul tenant, sans entracte, se termine à nouveau avec ce même motif de 3 notes, ré, la, fa. Je vous propose d'écouter maintenant la fin d'Elektra, si j'osais dire les 5 dernières minutes, même s'il n'y a pas beaucoup de suspense. Où en sommes-nous dans cette affaire ténébreuse et bien pénible? La vengeance a été accomplie par Oreste, il a égorgé Clytemnestre, sa mère. Elektra est certes un peu contrariée, elle a oublié de donner à Oreste la hache avec laquelle Agamemnon avait été égorgé. Elle pensait qu'il aurait été pratique et convenable qu'elle serve aussi pour ce second massacre. Nous rejoignons les deux sœurs, Elektra et Chrysothémis, prises dans une transe extatique, hypnotique. La musique est d'ailleurs presque celle des duos de la maréchale et d'Octaviane dans « Le chevalier à la rose ». On danse sur un rythme étonnamment valsant pour ces temps reculés et cruels. Après un cri suraigu des cordes, Elektra s'effondre, morte. Et c'est alors dans cette dernière minute de l'opéra que ressurgit le drame avec le motif de 3 notes du début. Ré, la, fa, on l'entend tel quel à 4 reprises. Puis, après les appels d'Oreste par Chrysothémis, on l'entend 6 fois, encore plus spasmodique, comprimé comme une des célèbres compressions du sculpteur César. Rideau, Mazette, quelle ambiance! Créer tout de suite, dès le début d'une œuvre, une ambiance prenante, prégnante, c'est manifestement une excellente façon de saisir l'auditeur, de le captiver, si j'ose dire, de l'embarquer, sans forcément lui révéler la suite de l'aventure. C'est en quelque sorte ce qu'ont fait tous ces compositeurs de symphonie classique qui démarrent l'œuvre non pas par un mouvement rapide, comme c'est attendu, mais par une introduction lente, avant d'enchaîner avec un changement de rythme soudain, avec un allegro, un presto, un vivace qui constituent le corps du premier mouvement. Lorsque c'est écrit avec génie et interprété avec esprit et talent, bien sûr, voilà qui saisit, qui crée l'enthousiasme de l'auditoire, qui crée immédiatement l'envie de réécouter. Les exemples sont nombreux, magnifiques, chez Mozart, chez Beethoven, je pense par exemple au début de la 7e symphonie, mais prenons plutôt une symphonie de Haydn, pas n'importe laquelle, l'extraordinaire 60e, une symphonie avec un vrai titre, le Distrait. Pourquoi le Distrait ? Parce que les 6 mouvements de la symphonie ont été composés et joués pour des représentations d'une comédie de Jean-François Régnard, le Distrait. Vous raconter l'intrigue n'est pas pour aujourd'hui. Il suffit de savoir que le héros principal, Léandre, est d'une distraction sans limite, avec des pertes de mémoire, etc. L'introduction Adagio commence par 4 mesures majestueuses, mais assez dépourvues d'intérêt. Suivent 20 mesures d'une mollesse et d'une désinvolture exquise, une douce rêverie qui semble précéder l'assoupissement. Changement de ton inopiné avec le début de l'Allegro molto, un thème bien vigoureux, carré, corde, bois, corps. Mais au bout d'une 30aine de mesures, tout se défait. Les cordes finissent par rester seules, par répéter la même note. Trou de mémoire. La musique se perd. C'est même d'ailleurs ce qui est écrit dans la partition. Nous allons aller jusqu'à ce passage marqué perdendosi, c'est-à-dire en se perdant, avec un suspense intolérable. Que se passe-t-il après ? Pas de réponse aujourd'hui.
Mazette, quelle musique ! Jean-Yves Larouturou, France Musique, c'est l'été.
Un autre très bel exemple de cette façon de faire, prendre l'auditeur, le transporter, ne plus le lâcher, c'est le début du triple concerto de Beethoven. 6 mesures au violoncelle et au contrebasse, 6 autres mesures avec des grands accords, un peu comme un largo introductif, et puis une succession d'épisodes qui étagent parfaitement les effets entre les thèmes, les dynamiques, les pupitres, jusqu'à l'arrivée des 3 solistes, et après c'est à eux de jouer. Je vous propose d'écouter le début de ce triple concerto dans une très belle version. Aurélie Moreau et Jérémy Rousseau nous diraient sans doute qu'elle ne fait pas partie des références. Bon, c'est tout de même le Philharmonique de New York. C'est un enregistrement de 1949. La prise de son est celle d'il y a 70 ans. Il est vrai que des trois solistes, seul le violoncelliste est sublime. C'est le grand Leonard Rose. Christian Merlin ajouterait forcément que le violoniste est le premier violon de l'orchestre, que le pianiste n'est autre que le chef assistant. Peu importe, puisque nous allons écouter le début, l'introduction orchestrale avant l'entrée des solistes. Et surtout, peu importe, parce que tout cela est dirigé par Bruno Walter. Et vous allez l'entendre, il y a là quelque chose de prime sautier dès les premières mesures. Un je ne sais quoi de gai, de chic, d'entraînant qui vous subjugue. Je crois que le beau n'est pas une substance en soi, mais rien qu'un dessin d'ombre, qu'un jeu de clair-obscur produit par la juxtaposition de substances diverses. De même qu'une pierre phosphorescente qui, placée dans l'obscurité, émet un rayonnement pair exposé au plein jour, toute sa fascination de joyaux précieux, de même le beau perd son existence si l'on supprime les effets d'ombre. Je viens de lire un extrait de L'éloge de l'ombre de Tanizaki Junichiro. Ce jeu de clair-obscur, cette juxtaposition de substances diverses, de phosphorescence, d'ombre, qui nous fascine, qui nous saisit, nous venons de l'entendre sous la baguette de Bruno Walter avec ce début du triple concerto de Beethoven. Pour poursuivre notre promenade de début enthousiasmant en début saisissant, je vous propose un détour par une merveilleuse musique vraiment flamboyante, envoûtante même, une musique de Bali, celle du gamelan Semar Begulingan. C'est une musique savante de cour qui date du XVIIe siècle et qui est confiée à un gamelan de flûte et de différentes percussions. Nous écoutons un prélude, Gambang, 3 minutes environ, et là aussi, comme dans le triple concerto, un grand raffinement, une science et un goût parfait dans la manière d'introduire la musique, puis d'étager les effets, ceci dans une succession d'épisodes selon les thèmes, les combinaisons instrumentales et rythmiques. Cette musique magique porte le nom de Semar, dieu indien de l'amour, et effectivement, c'est le début d'une musique nocturne jouée, nous dit-on, dans les cours et les jardins du palais, près des chambres, pendant les ébats amoureux des princesses et des princes royaux. Cet extrême raffinement instrumental, rythmique, harmonique, me fait penser à un très grand compositeur du XXe siècle. Grand orchestrateur, grand coloriste, grand inventeur de formes, il était aussi vraiment un maître dans l'art de composer des débuts saisissants, justement très raffinés, inoubliables, c'est Witold Lutosławski. Je vous propose maintenant d'écouter le début, l'incipit de ses deux dernières symphonies, la troisième et la quatrième. Lutosławski a mis 10 ans à répondre à la commande de Georg Solti et de l'Orchestre Symphonique de Chicago. Pour cette troisième symphonie, elle fut achevée et créée en 1983, à un moment douloureux de l'histoire de la Pologne, qui était alors sous le coup de la loi martiale, une période sombre, et l'œuvre en est le reflet, en quelque sorte. L'introduction très brève de cette symphonie est conçue pour saisir l'auditeur, c'est exactement ce qu'écrit le compositeur lui-même. Elle s'ouvre sur un motif brutal, urgent, de 4 mi au cuivre et aux percussions. suivent deux périodes de fourmillement, de microthèmes, de miroitement, notamment entre les bois et les cuivres, qui conduisent à un début de chorale sombre, qui est interrompu par les quadruples mi. C'est tout simplement le compositeur, lui-même, en 1985, qui dirige tout simplement la Philharmonie de Berlin. Ces quatre mi assénés et avec quelle puissance nous rappellent évidemment un autre début justement fameux et combien prenant avec les quatre notes sol, 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 mi, celui de la cinquième symphonie de Beethoven. Quant au début de la quatrième symphonie de Lutosławski, il est très différent, mais également inoubliable. L'apparente simplicité repose là encore sur un très grand raffinement dans l'harmonie, dans l'orchestration, dans la structuration même de l'œuvre. Avec un certain degré de liberté d'ailleurs laissé aux instrumentistes pendant des épisodes aléatoires où ils peuvent choisir non pas la mélodie, mais le rythme, le ton, le moment. L'auditeur est vraiment pris en main. Écoutons ensemble ce début. D'abord une note tenue, presque inaudible. Une grande et longue pédale harmonique. Harmonie flottante, indécise. Apparition de la clarinette. Une mélodie presque tonale. Une ambiance quasi mahlérienne. La flûte prend la suite de la clarinette. Début des choses aléatoires. Glissando des harpes, frémissement, ruissellement des cordes. Solo de trompette. Puis fanfare des cuivres. Réplique des bois. Grande phrase descendante du piano qui clôt l'épisode aléatoire. On retourne à l'ambiance initiale. On croit que c'est une reprise. Mais non, tout de suite, la clarinette arrive beaucoup plus vite. Très vite, la flûte aussi. Très belle musique lumineuse, un compositeur au sommet de sa science, de son art, de son inspiration, qui sait qu'il approche de la fin. Lutosławski a dit lui-même que l'objectif de cette première section, qu'il appelle la section préparatoire, était double. D'une part, capter l'attention de l'auditeur avec une forte charge émotionnelle, mais aussi, d'autre part, le désorienter, créer un manque, une frustration du fait de la dispersion des épisodes, de l'absence de continuité, des fausses reprises comme celle qu'on vient d'entendre. Cette attente sera satisfaite dans la deuxième partie de l'œuvre. Nous réécoutons ce début, si mystérieux, si émouvant, avec d'abord cette longue note pédale, un peu comme le prélude de l'or du Rhin. Oups ! Une note pédale peut en cacher une autre, c'était ni Wagner, ni Lutoslavski, et pourtant on s'y croyait presque, c'était Vivaldi. Retour à Lutoslavski, on reprend notre écoute de ce magnifique début. grand art, grand raffinement, grands effets. Pour achever cette première promenade parmi les débuts d'œuvres, parmi quelques incipits marquants, faisons simple et pour cela, prenons une gamme majeure descendante. Merci Nina, c'était la grande Nina Simone, vous l'avez reconnue. Une simple gamme majeure descendante, c'est la simplicité apparente que François Couperin choisit pour le début d'un des plus fameux chefs-d'œuvre de la musique baroque, Les Trois Leçons des Ténèbres, une œuvre poignante, un mélange extraordinairement maîtrisé de sobriété absolue et de sensibilité efflorescente. Une simple gamme majeure descendante, donc, à la basse de viol, et nous ouvrons le livre des Lamentations de Jérémie, un des plus beaux poèmes de l'Ancien Testament, une immense déploration sur la destruction de Jérusalem et de son temple et la déportation à Babylone. C'est un poème acrostiche, c'est-à-dire que chaque strophe commence par une des lettres de l'alphabet hébreu, la première strophe par la première lettre, Aleph. Écoutons les trois volets de cet immarcessible début, l'incipit, la vocalisation de l'Aleph et la première strophe de Lamentation. C'est Margot Blanchard à la basse de viol qui va donc jouer cette gamme majeure descendante. Cette première émission s'achève sans que nous ayons épuisé le beau sujet des débuts saisissants, on y reviendra peut-être. De ma part et de la part de François Couperin, grand merci à Nina Simone pour son heureuse contribution « Just in time ».
My baby don't care, no. baby, there's chaos for me.
Quel début ! Nina Simone, une des plus grandes chanteuses de l'histoire du jazz, également une militante très engagée dans les luttes pour l'égalité et les droits civiques. Et on se doit de le souligner en ce 4 juillet 2020, 4th of July 2020. Nous nous retrouvons dans une semaine, même lieu, même heure, pour nous demander ensemble comment réussir ou rater le da capo d'un aria da capo. Que ce questionnement profond ne vous rende pas insomniaque. Toutes les références musicales, la réécoute, le podcast sur la page Mazette Quelle Musique sur le site de France Musique. Merci à la fine équipe, Thomas Jost, Adelino Mello et Flora Sternadel qui m'ont accompagné aujourd'hui pour vous offrir cette première émission de notre série estivale. Très bonne semaine sur France Musique et dans moins de 2 minutes, été classique.
À réécouter sur francemusique.fr.